Voilà, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire de façon plus personnelle, mais Antonio est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'aimerais vraiment vous dire que je suis vraiment fan et je suis vraiment heureux de la projection que vous avez pour votre église pour les années à venir. Le but de que ce soit un centre qui soit à la fois église, à la fois qui fasse du social. Et je crois que c'est vraiment ça aussi l'annonce du royaume des cieux. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse dans cette orientation. Et puis, donc, comme disait le pasteur Antonio, je vais bientôt à Amiens. Et donc, le profil de l'église d'Amiens, elle ressemble beaucoup à votre église. Donc, c'est une église avec une grosse dominante africaine. Mais alors, j'aimerais vous dire, en fait, je ne crois pas en l'église africaine. Je ne crois pas en l'église française. Je crois en la réconciliation des nations. Vous savez, quand on prend le livre de l'Apocalypse, c'est marqué qu'il y a la réconciliation des nations. Et en fait, je trouve que c'est génial, cette parole, parce que on a un gouvernement qui fait tout pour essayer de créer une mixité entre les peuples, mais concrètement, ça marche pas. Ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, et je crois qu'on doit encourager ces démarches, mais concrètement, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, des complexités et tout ça. Mais je crois que l'Église est ce que Dieu a envoyé ici-bas pour que blanc, noir, jaune, rouge, ou tout ce que vous voulez, on fonctionne main dans la main et qu'on apprenne à fonctionner ensemble. Très rapidement, je vous fais un témoignage. J'ai eu l'occasion à Besançon d'un moment de loger un frère du Nigeria qui était là pour les études. Donc, je l'ai pris pendant 4 mois dans mon appartement. Et en fait, ça a été pour moi une source de bénédiction et de richesse. Vous savez, parce que l'Évangile, il ne nous appelle pas à regarder l'autre comme étant inférieur à nous-mêmes, mais il nous appelle à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et à un moment, j'ai regardé ce frère qui s'appelle Délé, donc il est au Nigeria, il vit avec sa famille au Nigeria, et je l'ai regardé comme étant supérieur, et comme quelqu'un qui m'apportait quelque chose. Et en fait, il m'a appris des tas de trucs, donc spirituellement, dans l'échange et tout ça, mais aussi au prix d'une richesse qu'il y a dans la culture africaine, c'est le respect des aînés, le respect des anciens. Et en fait, pour moi qui suis gaulois, vous savez, les gaulois, ils sont un peu anarchistes, sous prétexte de liberté, en fait, vous savez, des fois, on se permet un peu des trucs. Et en fait, moi, ça m'a appris à avoir un grand respect, vous savez, pour ceux qui m'ont précédé, ceux qui sont avant moi. Et je crois que le Seigneur appelle son Église vraiment à regarder la culture qui est à côté comme une richesse. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on construit quelque chose, on se nourrit les uns les autres parce que nous vivons dans l'échange culturel, parce qu'en Jésus-Christ, vraiment, nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis et nous nous édifions ensemble. Alors, je vous parlais donc de ce projet dans lequel vous vous lancez, de la construction d'une église. Alors, vous êtes déjà église en tant que telle, mais vous vous lancez aussi dans un projet qui est un projet de bâtiment. Et alors, ce matin, je me suis dit que c'était bien de pouvoir prendre un texte qui nous parle aussi à un moment de la construction d'un bâtiment. Et ce texte que nous allons prendre, donc ça sera dans 2 Samuel au chapitre 7, et ça se trouve à l'apogée du règne du roi David. Le roi David est un roi qui a commencé sa vie, vous savez, en commençant à garder les troupeaux de brebis et tout ça. Et puis ensuite, il est devenu chef d'une petite bande. Et puis ensuite, le Seigneur lui a donné la responsabilité d'être roi sur une ethnie qui s'appelait l'ethnie de Juda. Et puis là, depuis quelques années, il est devenu le chef et le roi de l'ensemble du peuple d'Israël. Donc il est devenu roi sur 12 tribus. Et puis en tant que roi, eh bien c'est tout à fait normal, il a construit un palais, il a érigé une capitale, il a dressé un palais dans lequel il établit son règne. Et puis tout d'un coup, alors qu'il est installé dans sa maison, le Seigneur lui a donné une certaine opulence, et puis tout d'un coup il se rend compte que l'arche de Dieu, elle habite dans une tente. Et à partir de ce moment-là, David va exprimer un désir qu'il a dans le fond de son cœur, c'est de dresser un temple pour l'Éternel, entre guillemets, je vous le traduis autrement, ça serait de construire une église, un lieu stable dans lequel les gens vont pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et alors j'aimerais prendre donc ce texte dans 2 Samuel au chapitre 7, alors ça va être une lecture qui va être assez longue, mais j'aimerais prendre quelques versets dans ce texte. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché, avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses sur mon peuple, sur Israël, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme avant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme j'ai le retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Et puis je lirai les versets 18 et 19. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. » Et je termine par les versets 25 et 26. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermi devant toi. » Et j'arrêterai ici la lecture, et puis ensuite David continue par toute une louange qu'il exprime devant Dieu pour la révélation qu'il a reçue. Alors j'aimerais voir la façon dont se déroule le texte, et puis voir qu'est-ce que ça nous apprend sur quel travail on doit faire pour construire cette maison dans laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a une première partie où c'est qu'on voit l'intention de David. Et cette intention, elle est particulièrement louable. David est un homme qui aime Dieu, et c'est un homme qui, tout au long de sa vie, a voulu montrer qu'il aimait Dieu. Vous savez déjà tous les psaumes qu'il a écrits, qui sont des louanges, et qui nous transportent, qui nous font du bien. La plupart de ces psaumes, on les a souvent dans nos cantiques que nous chantons. Et puis il a même démontré son amour pour Dieu, parce que il s'est rendu compte qu'à un moment, dans la ville où il était, il n'y avait pas l'arche de Dieu. Donc pour lui, en fait, ça voulait dire qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans la ville où il habitait. Alors il s'est débrouillé pour faire revenir l'arche de Dieu dans la ville de Jérusalem. Mais cela ne suffit pas. Et il se dit qu'il faut maintenant aller plus loin et qu'il faut aussi construire un beau bâtiment pour que Dieu puisse demeurer dans ce lieu. Et alors, il faut se rendre compte de ce que ça signifie de construire un bâtiment. Parce qu'en fait, dans notre tête, vous savez, quand on lit ça, on se dit « Oh, David, c'était simple, c'était un roi, donc en fait, il a juste sorti le chéquier, puis il a construit le bâtiment. » Mais en fait, pour tous ceux qui sont habitués à voir quand il faut construire un bâtiment, en fait, il suffit pas de sortir un chéquier. Si jamais ça avait été le cas, je vais dire, aujourd'hui, vous auriez déjà une maison avec de l'or massif contre les murs ou tout ce que vous voulez. En fait, quand on construit un temple, un palais, ça veut dire qu'en fait, il faut réfléchir au coût, et puis il faut sacrifier le budget sur certaines choses. Quand, par exemple, je ne sais pas, si jamais la municipalité elle voulait faire une nouvelle mairie, une mairie, ça coûte plusieurs millions d'euros. Eh bien, ça veut dire que derrière, il faut réduire des dépenses. Et en fait, le roi David, plutôt que d'investir dans l'armée, plutôt que d'investir, vous savez, par exemple, dans des beaux chevaux ou des choses comme ça, eh bien, il accepte de faire un sacrifice, de réduire son train de vie pour pouvoir investir dans la maison de l'Éternel. Et moi, je trouve ça génial. Vous savez, en fait, de se rendre compte que les dîmes, les offrandes qu'on fait devant Dieu, en fait, c'est pas le superflu qu'on donne. C'est aussi à un moment pouvoir se dire, eh bien, l'Église a des projets, l'Église a une orientation dans laquelle elle va se lancer, et dire, eh bien, bon, j'avais envie d'acheter un paquet, je sais pas, n'importe quoi, de bonbons pour manger devant la télé le soir, ou je sais pas trop quoi, et de dire, non, je réduis un peu mon budget. Alors, je pense que le but, c'est pas de vivre, vous savez, comme un paria ou comme si on n'avait rien du tout. Mais en fait, il y a des tas de trucs. Par exemple, allez, c'est la Coupe du Monde. Vous aviez peut-être prévu d'acheter, vous savez, le grand écran là qui se met sur tout votre mur. En fait, on voit aussi bien sur une télé de 36 cm. Et puis, en fait, de dire, tant pis, eh bien, je réduis un petit peu mon train de vie et puis j'accepte de donner des choses pour que le Seigneur puisse être dans un endroit qui soit beau et agréable. Mais parler de l'intention de David, eh bien, ça ne présente pas totalement la situation. Il y a encore une situation qui est là, en fait, qui est à prendre en considération, c'est une situation politique. Comme je vous le disais, le roi David est un roi qui, pour la première fois depuis l'histoire d'Israël, a réussi à fédérer tout un peuple autour de lui. Alors, je vous le traduis pour une nation, parce que nous sommes une nation, nous sommes la nation chrétienne, mais la nation de déportés que vous êtes. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez grandi au Cameroun, en Angola, au Congo, ou n'importe où, même, je sais pas, en Allemagne, ou en Angleterre, ou je sais pas trop quoi. Et puis, en fait, vous arrivez ici, en fait, vous êtes un peuple, entre guillemets, de déracinés à vue humaine. Mais en fait, vous allez rester en France, vos enfants vont rester en France. Et puis, en fait, vous avez fait un super projet, c'est de dire, puisqu'on est là, eh bien, on va se réunir, et puis on va monter une communauté qui va s'appeler la communauté chrétienne, le centre chrétien, c'est ça, le centre chrétien de Troyes. Et en fait, c'est un peu dans le même état, en fait, que se trouve le peuple d'Israël. Ils ont voyagé à travers, vous savez, comme une nation de migrants, et puis à un moment, le Seigneur leur a dit qu'ils allaient s'installer en un endroit. Et en fait, quand on s'installait à un endroit, eh bien, on n'a pas envie de continuer à vivre, vous savez, dans des cellules de maison, ou dans des tentes, ou dans un endroit qui n'est pas génial. Et puis, en fait, on a envie de construire quelque chose pour montrer la stabilité et la solidité. Parce que le Seigneur vous donne une stabilité. Maintenant que vous êtes ici, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous le montrez par le travail que vous êtes en train de faire, quand vous éduquez vos enfants en leur disant tu vas à l'école parce que demain tu seras ingénieur dans une grande entreprise ou tout ça. Eh bien, en fait, de la même façon, c'est ce qu'on fait quand on construit l'église ici. Parce que vous avez envie que vos enfants, eh bien, demain, ils aillent pas n'importe où, à n'importe quel endroit vagabonder. Et en fait, vous avez envie qu'ils soient dans ce centre chrétien, ou même dans une autre église à Troyes. À un moment, votre enfant fera un choix. Eh bien, c'est de la même façon. En fait, le roi David a envie de montrer que maintenant, il y a une stabilité pour Israël. Israël n'est plus une nation de migrants. Vous n'êtes pas des migrants. Quand il y en a qui viendront vous voir en vous disant « vous êtes des migrants » ou quoi que ce soit, non, non, vous n'êtes pas des migrants. Oui, on est des migrants parce qu'un jour, on passera dans l'au-delà, on passera dans l'éternité. Mais aujourd'hui, vous êtes là dans ce pays et le Seigneur vous appelle aujourd'hui à avoir une stabilité, à être dans un lieu où vous êtes rassuré, où vous êtes apaisé. Ça passe aussi dans cette relation et dans cette intimité avec Dieu. C'est super rassurant. Vous savez, je pense à nos frères et sœurs persécutés. C'est pas une situation qui doit durer pour eux. On doit, peut-être qu'il y en a même certains qui ont été persécutés, mais le Seigneur nous dit qu'aujourd'hui, on a une bergerie, un endroit dans lequel on peut avoir une relation stable avec Dieu. Et cette relation, c'est l'Église. Et c'est aussi ce qu'il y a du coup dans le cœur de David. Il veut que l'arche de Dieu ne soit plus sous une tente ou sous un chapiteau comme des nomades, mais il veut, en montrant qu'il y ait un bâtiment qui est stable, que notre Dieu n'est pas un Dieu nomade qui s'en ira à un moment ou qui nous appellera peut-être à partir de nouveau et à fuir. En établissant ce temple, il dit qu'il y a une relation claire et stable qui est adressée entre Dieu et les hommes. Et ce texte aussi, alors on s'en rend pas forcément compte dans une première lecture, ce texte montre qu'il y a aussi un intérêt, et un intérêt plus personnel pour David. On le voit plus spécifiquement dans la réponse que Dieu va lui donner, mais on le lit aussi, par exemple, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans le Proche-Orient ancien, en fait, la démarche de David, en fait, il y a d'autres rois dans d'autres pays qui ont eu un peu la même démarche, en faisant en fait un petit peu un pacte avec Dieu. Et en fait, dans la façon dont quand on s'adressait à un dieu, au Proche-Orient ancien, en lui disant « je vais te construire un temple », en fait, on faisait un peu comme signer un contrat en disant à ce dieu « je te construis un temple, mais en contrepartie, tu t'engages à m'assurer une dynastie ». Donc en fait, dès qu'un roi devenait un petit peu opulent, eh bien, il allait dans la maison d'un dieu et il disait « je te construirai un temple, mais en contrepartie, je veux que tu m'assures que mon enfant et mes enfants après moi rentreront dans la succession qui est celle-là ». Et donc, en fait, David a un intérêt personnel dans cette histoire-là. En fait, il est en train d'essayer de rentrer dans une contrepartie avec Dieu en lui disant « eh bien, Seigneur, je veux, en construisant ce temple, que tu m'assures que mes enfants continueront à être assis sur le trône sur lequel je suis assis ». Et alors, à partir de ce moment-là, on va commencer à voir la réponse que Dieu va donner à David. David, comme je vous dis, hein, il a plein de bonnes intentions. Enfin, c'est assez intéressant de voir toute la démarche. Et puis en fait, la réponse de Dieu, elle est assez surprenante. La première réponse que Dieu donne, eh bien, c'est une fin de non-recevoir. Alors c'est assez épatant, en fait, je pense que la plupart d'entre nous, quand on vient ici, on fait cette prière, « Oh Seigneur, je veux que cette église soit grande, belle, et etc. » Et puis en fait, le Seigneur, il donne une réponse vraiment surprenante à David. Il lui dit, « Ben non, tu ne me construiras pas un temple. » En gros, c'est comme si on venait ici avec en disant « c'est bien, Seigneur, je vais mettre dans la dîme, et puis derrière, il y aura une belle église. » Puis en fait, le Seigneur, il nous dit « en fait, je m'en moque éperdument de ce que tu mets dans la dîme, et je m'en moque éperdument du lieu que tu as envie de me construire. » Alors là, vous allez me dire « mais dis donc, pour encourager des gens à se lancer dans un projet, c'est un petit peu spécial. » Et pourtant, en fait, on va voir qu'il y a vraiment un encouragement beaucoup plus grand de la part de Dieu, parce que ce que le Seigneur est en train de faire à travers sa réponse, c'est qu'il est en train de lui dire que l'Église, que la façon dont on rentre en relation avec lui, ce n'est pas par un bâtiment. Mais en fait, le bâtiment, le but, ce n'est pas d'avoir un tas de pierres que l'on va construire les unes sur les autres. Si le Seigneur avait voulu un tas de pierres, eh bien, il nous aurait simplement dit, vous allez acheter Brico Dépôt avec tout ce qu'il y a dedans. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas des tas de pierres, c'est pas du tas de plâtre et tout ça. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est que quand on construit un bâtiment, eh bien, c'est pas pour le bâtiment, c'est pas pour qu'il soit beau. Quand vous allez, quand vous allez venir pour aider pour les travaux ou quoi que ce soit, le but, c'est pas que cette maison soit la plus belle. Le but, c'est que les frères et sœurs qui vont se réunir dedans soient dans une situation qui soit agréable, qui soit bonne. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le traduis, parce que derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser à l'abandon et négliger et tout ça. En fait, ça veut dire que quand on vient aux travaux, vous savez, puis qu'on est découragé, « Ah, j'en ai marre, il n'y a jamais personne qui vient m'aider », ou vous travaillez, ça fait 8 heures que vous êtes en train de travailler, puis d'un coup, tout ce que vous avez fait, ça part un peu de travers, puis vous vous grattez la tête en disant « Oh, c'est nul, je suis vraiment découragé », tout ça. Mais pourquoi? Parce que vous regardez, en fait, un tas de pierres. Mais en fait, quand on va aller un petit peu plus loin dans le texte, on va voir qu'en fait, le Seigneur encourage non pas à avoir un tas de pierres, mais quand on construit ce bâtiment, il nous encourage à voir tous les frères et sœurs. Et ça veut dire que tout d'un coup, on est découragé parce qu'on est en train de construire des pierres, on est en train de mettre tout ça. Mais tout d'un coup, on se souvient, c'est pas pour mettre des morceaux de cailloux les uns sur les autres, c'est pas pour mettre de la moquette sur une estrade qu'on est là. Si on est là, c'est pour que chacun d'entre nous, eh bien, on puisse vivre une relation fraternelle, que l'on puisse s'aimer et avoir un lieu dans lequel on puisse exprimer l'amour beaucoup plus profondément. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à être découragé. Alors je comprends émotionnellement que c'est pénible quand on a travaillé 8 heures puis qu'on se rend compte que ça a servi à rien. Mais tout d'un coup, quand vous êtes découragé comme ça, vous vous dites dimanche, il y aura les frères et sœurs. Ils se rendront peut-être pas compte de ce mur qui est là, mais les frères et sœurs qui seront ici, eh bien ils vont s'aimer. Et moi, je vais pouvoir les aimer en retour. Et à partir de ce moment-là, eh bien tant pis, on a travaillé pendant 8 heures, on est un peu déçu, ben c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça n'empêchera pas l'Église de Jésus-Christ de pouvoir s'édifier réellement. Parce qu'édifier l'Église, comme je vous dis, c'est pas ça, c'est nous aimer les uns les autres. À la fin du culte, prendre un peu de temps avec quelqu'un qui va pas bien en lui disant « tu sais, je t'aime ». Et je crois que le Seigneur, eh bien, il va t'encourager à aller plus loin avec lui. Et puis en fait, cet édifice, bien sûr, le but c'est d'avoir au final un beau bâtiment et tout ça. Mais en fait, le beau bâtiment, eh bien, c'est la construction qu'on forme les uns les autres. Quand vous allez à la fin, vous allez encourager un frère, quand vous allez l'aimer, quand vous allez le prendre par le bras en lui disant, tu sais, je pense à toi, je prie pour toi. Je pense par exemple à cette personne-là qui a exposé le sujet de prière, qu'elle a son enfant qui s'est tourné vers l'islam. Eh bien, c'est un sujet, on va l'avoir à la fin en disant, eh bien, aime le Seigneur de tout ton cœur. Et quand ton enfant va voir ce qui se passe à la mosquée, toute l'hypocrisie qu'il y a dedans, puis qu'il va voir l'amour qu'il y a dans l'église, eh ben, il va tout de suite comprendre et il va revenir au galop ici. Je crois que c'est ça que le Seigneur nous appelle à nous édifier. Et puis donc, du coup, Dieu replace les choses, donc, comme je vous le disais, dans le bon ordre. Il n'en a rien à faire de ce bâtiment. Alors quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les travaux et tout ça. Mais ce n'est pas le bâtiment qui est prioritaire. C'est vraiment nous, lorsqu'on se réunit, qu'on s'aime, qu'on s'entoure. Et puis, du coup, il y a un second rebondissement, parce que je vous disais que c'était vraiment un texte avec plein de rebondissements. Comme je vous disais, donc, en fait, ce que Dieu est en train de dire, donc déjà, c'est que le bâtiment, c'est pas le plus important. Et puis ensuite, je vous disais que dans le cœur de David, quand il a voulu construire ce bâtiment, vous savez, il était venu avec un intérêt personnel, c'était d'avoir l'assurance d'avoir une dynastie. Et en fait, le Seigneur, il est en train de lui donner une réponse qui est complètement surprenante. Il lui dit, c'est pas toi qui construiras ce bâtiment, parce que ce bâtiment, c'est pas important. Mais même sans bâtiment, je te construirai une dynastie. Parce qu'il lui dit, c'est pas toi qui construiras le temple, ce sera ton fils. C'est-à-dire qu'en fait, alors que David avait pensé qu'en construisant ce bâtiment, eh bien, il aurait son fils qui serait sur le trône, et en fait, Dieu est en train de lui dire, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. C'est parce que tu me sers que je vais donner l'assurance que tes enfants marcheront pour le Seigneur, et parce qu'ils marcheront pour moi, eh bien, alors ils construiront quelque chose et ils vont continuer le projet dans lequel tu t'étais lancé. Et en fait, le Seigneur inverse les rôles. En fait, ce n'est pas parce que David avait voulu faire quelque chose pour Dieu qui lui était agréable. Mais le Seigneur lui dit que c'est parce que Dieu a choisi David qu'il fera quelque chose. En fait, vous savez, des fois, en fait, on va vraiment, par exemple, même certaines fois, on pense qu'on va travailler pour Dieu en disant « parce que je travaille pour Dieu, eh bien, je vais recevoir en contrepartie ». Eh bien, le Seigneur, en fait, il nous dit en fait de fonctionner dans l'autre sens. En fait, vous savez, par exemple, je ne sais pas, on va donner quelque chose pour le Seigneur et tout ça, on se dit « je donne, mais je vais recevoir ». Et en fait, le Seigneur, il nous dit de fonctionner dans le sens inverse. Il nous dit « c'est parce que je t'ai donné ». Qu'en fait, tu vas pouvoir faire une action de grâce en retour. Et en fait, il faut pas croire. Vous savez, des fois, on se dit, oh, je sacrifie, je fais un sacrifice en donnant dans la collecte, je fais un sacrifice en donnant une journée pour aller travailler à l'église. En fait, le Seigneur, il nous dit, en fait, de regarder dans l'autre sens, en disant, c'est parce que je t'ai donné qu'en contrepartie, tu peux me donner en retour. Et je trouve que c'est vraiment génial, en fait, de voir ça, parce que c'est vraiment libérateur. Et en fait, ça veut dire que du coup, eh bien, si on agit ainsi, on n'agit plus, vous savez, en se disant « Oh, c'est nul, je vais donner 100 euros, qu'est-ce que le Seigneur va me donner en retour ?» Mais en fait, on dit « Non, le Seigneur m'a déjà tellement donné que je veux vraiment le bénir et lui offrir quelque chose. » Et donc, dans cette relation, donc, ce n'est pas une relation donnant-donnant, mais c'est une relation où c'est Dieu qui nous a donné. Et il nous donne, et il nous donne sans cesse. Et nous, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est juste une petite action de grâce en plus. Et puis ensuite, pour venir continuer à nous étonner, eh bien, le souhait de David, en fait, va réellement se réaliser. Dieu refuse le temple comme préalable à la promesse. Vous savez, David avait prévu de faire un temple et après qu'il aurait toute la promesse. Eh bien, en fait, Dieu va bien répondre à sa prière. Mais cette fois-ci, le temple ne sera plus comme quelque chose que David va donner, mais comme quelque chose va pouvoir donner à son peuple pour pouvoir montrer la stabilité de la relation qu'il y a avec lui. C'est-à-dire que quand vous venez en pensant que vous allez donner pour que l'église soit là pour quelque chose pour Dieu, eh bien en fait le Seigneur nous dit non, je vous ai donné cette église. Et donc en fait à partir de ce moment-là, on n'est plus dans cette relation comme je vous disais où c'est qu'on fait un chèque et puis qu'on va peiner. Mais non, le Seigneur vous a donné ce lieu. Et en fait puisqu'il vous a donné ce lieu, eh bien en fait il vous donne la garantie que tous les projets dans lesquels vous vous lancez pour lui, à partir du moment que c'est des projets dans lesquels il est inscrit, eh bien qu'il va vous donner l'assurance d'aller au bout. Et en fait, c'est super rassurant. Vous savez, par exemple, je pense à Antonio qui, des fois, doit se réveiller la nuit en disant « Oh, mince, comment je vais faire ci ?» Je pense que ça t'arrive. Hein. Voilà, donc ça arrive, hein, des fois, de temps en temps, il doit se dire « Oh, comment je vais ?» Et en fait, le Seigneur, en fait, quand on réalise ça, eh bien, il nous dit, en fait, c'est pas Antonio qui porte le projet. C'est le Seigneur qui le porte. Alors heureusement, je crois que le Seigneur nous donne dans sa grâce de pouvoir contribuer à tout cela. Mais quand tu te réveilleras la nuit, eh bien pense, quand vous, des fois vous vous réveillez la nuit pour des projets quelconques, eh bien pensez, si le Seigneur vous a donné quelque chose, eh bien il vous le donne, en fait c'est gratuit de sa part. C'est pas parce que vous faites, c'est pas parce que vous vous défoncez, mais c'est parce qu'il vous aime, il vous l'a donné, et parce qu'il vous aime et qu'il ne vous retirera pas son amour, il vous donne l'assurance que ces projets se réaliseront. Et puis alors, du coup, il y a quelque chose d'assez surprenant. Parce que là, jusqu'à présent, on a qu'une vision un peu étroite, hein, parce que tout tourne autour d'un bâtiment de pierre et tout ça, ou autour d'un fils de David. Et puis ensuite, le Seigneur nous donne une promesse, en fait, qui dépasse David et Salomon. Il nous dit dans ce texte qu'il sera envers sa descendance comme un père agit envers son fils. Et en fait, de qui il parle quand il parle de ce fils comme ça ? Il ne parle pas seulement de Salomon. Bien sûr, il est en train de lui dire qu'il y aura Salomon, qu'ensuite il y aura Roboam et qu'ensuite il y aura tous les descendants de David. Mais en fait, à un moment, on se rend compte, vous savez, quand on lit l'ensemble de l'Ancien Testament, qu'à un moment, la dynastie, eh bien, il n'y a plus de roi en Israël. Vous savez, il y a la déportation à Babylone, et puis ça fait un pchit, et puis ensuite, il y a un retour, et puis ensuite, pendant deux ou trois générations après le retour de Babylone, il y a de nouveau un roi, puis ensuite, il n'y a pas de roi. Hein. Par exemple, à l'époque romaine, quand Jésus-Christ est là, il n'y a plus de roi de la lignée de David sur le trône en Israël. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, à travers cette succession ? Il a dit, vous savez, il dit, je ne te rejetterai pas, pardon, je vais reprendre le texte biblique là, je vais le reprendre. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Donc là, en fait, il parle de tous les rois d'Israël qui, à chaque fois qu'ils ont voulu se détourner, le Seigneur les a châtiés pour qu'ils se repentent et pour qu'ils reviennent à lui. Et puis ensuite, mais sa grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Saül, il était comme un employé dans la maison de Dieu. Vous savez, vous êtes un patron, votre employé, il ne fait pas tout à fait comme vous voulez, vous le mettez à la porte. Mais quand c'est votre enfant, en fait, même quand votre enfant il va faire des crises de nerfs, même quand votre enfant à un moment il prend un chemin qui n'est pas tout à fait celui que vous vouliez, bien vous ne le rejetez pas. Puis vous allez continuer à l'inviter le dimanche midi à table. Puis vous allez continuer à l'aimer. Vous ne le rejetterez pas. Vous ne le rejetterez jamais. Et en fait, cette alliance qu'il est en train de faire, eh bien, c'est celle qu'il va faire par le Fils qui est parfait. On aimerait tous avoir des enfants parfaits. Il y a la personne qui aura. Pourtant, il y a personne parmi nous qui a des enfants parfaits. Il y a des enfants qui sont mieux que d'autres, mais pourtant, on les aime toujours, nos enfants. Mais le Fils qui est parfait, celui qui ne sera jamais rejeté, eh bien, c'est de Jésus-Christ qu'il est parlé là. Et en fait, dans ce texte, Dieu fait une promesse à David en lui disant que de sa descendance, il y aura toujours un successeur sur son trône. Et en fait, il est en train de parler de l'alliance qu'il va faire à travers Jésus-Christ. Et c'est-à-dire que la dynastie que Dieu est en train de créer à travers Jésus-Christ, David, elle va se manifester par Jésus-Christ et que c'est une alliance que Dieu ne rejettera jamais. En fait, ça veut dire que quand vous savez, des fois, on a des situations dans notre vie où on se dit « Oh, j'ai vraiment mal agi, je suis pas sûr que Dieu m'aime tout à fait. » Vous savez, des fois, on a des choses comme ça où c'est qu'on agit, on est vraiment déçu de nous-mêmes. Ça nous arrive tous. Des fois, vous savez, on est vraiment, même des fois, ça fait 15-20 ans qu'on sert le Seigneur et puis on se dit « Oh, bof, je réagis comme ça, je suis pas sûr que Dieu m'aime. » Eh bien, ça veut dire que de la même façon que David savait qu'il ne serait pas rejeté à cause de ce fils qui est parfait, eh bien, de la même façon, Jésus-Christ est notre frère. Si on a traité une alliance avec lui, eh bien, ça nous invite à regarder à cette relation par Jésus-Christ. Et quand on a péché, ça veut dire qu'on doit intercéder par Jésus-Christ en disant « Oui, Seigneur, j'ai péché, mais je sais que ton fils ne sera jamais rejeté devant toi. Je crois en son sacrifice parfait. » Et ça veut dire que ce temple, cette relation que nous pouvons toujours avoir à travers avec Dieu, elle se manifeste par Jésus-Christ. Et ça veut dire que si ce matin vous vous sentez seul, apeuré, attristé, eh bien criez à Jésus-Christ et dites-lui « c'est pas possible, tu as dit que je ne serai jamais rejeté par lui ». Il y aurait toujours cette relation entre mon Père et moi par Jésus-Christ. Et ça veut dire que même si vous êtes découragé, aujourd'hui, vous pouvez repartir en étant encouragé, en étant rassuré, parce que Dieu vous aime, il ne vous rejettera jamais, parce qu'il ne peut pas rejeter son fils. C'est génial, c'est super rassurant. Donc comme je vous disais, quand à un moment vous vous dites, oh, ces travaux, est-ce qu'ils vont fonctionner, est-ce qu'ils vont pas fonctionner, par Jésus-Christ, ils vont fonctionner, parce qu'il ne peut pas rejeter Jésus. Et puis du coup, eh bien, ça appelle à voir aussi un petit peu plus loin, puisque c'est un double phénomène hein, dans ce texte. Et à la fois, en fait, il nous dit, voilà, il y a à la fois un axe qui parle de l'Église, Parce que lorsqu'il parle de ce temple qu'il est en train de construire, et en fait, c'est même marqué... Alors... Ce sera lui, donc ce fils, donc Jésus-Christ, qui bâtira une maison en mon nom. Et en fait, cette maison, du coup, c'est pas un temple de pierre. C'est pas le temple de Jérusalem. Vous savez, il y en a des fois qui tournent tout le temps leurs yeux vers Jérusalem. Mais en fait, ce fils, il est en train de construire un temple. Et ce temple, c'est vous. C'est-à-dire, comme je vous le disais, le but, je crois vraiment qu'il y a un projet pour cette église. Mais ce projet, ça dépasse le cadre de ces pierres. Ces pierres sont juste un outil entre les mains du Seigneur pour que à chaque fois que vous veniez ici, que vous puissiez vous édifier les uns les autres, que vous puissiez vous aimer, que vous puissiez construire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et cette église, du coup, quand je la vois, eh bien, elle est belle, elle est magnifique. Parce que vous savez, comme le temple de Salomon, Salomon a mis plein de richesses dedans parce qu'il voulait que ce temple soit beau. Eh bien, Jésus, quand il bâtit son église, il l'a construit, il en fait quelque chose de beau. Donc quand je viens, voilà, je peux voir des morceaux de carrelage, je peux voir des fils qui passent. Mais si je regarde ça, et c'est pas beau, c'est pas fini. Par contre, quand je vous vois par Jésus-Christ, eh bien, je me dis que vous êtes beau. Et peut-être que vous êtes venu, peut-être en ayant quelque chose contre un frère, contre une sœur. Eh bien, le Seigneur, il nous dit, bah, regarde ton frère, regarde ta sœur comme quelque chose de fini, d'épanoui par Jésus-Christ. Parce que la chose qu'il a commencé à œuvrer en vous, il la conduira jusqu'à la fin parce que Dieu a un projet pour son Église. Ce projet dépasse le centre chrétien. Parce que le centre chrétien, c'est juste un outil, un instrument entre les mains, vous savez, comme le temple de Jérusalem. Mais ce qu'il veut, c'est vous. Il nous aime. Il veut que nous puissions vivre quelque chose de fort. Et ça fait que dans ce texte, en fait, la maison dont il est parlé, en fait, c'est assez intéressant. En fait, il y a toute une évolution dans l'expression du terme maison. Ça commence, vous savez, avec David, lorsque David fut installé dans sa maison. Et donc, en fait, il parle d'une maison, dans le HLM dans lequel vous êtes, dans le pavillon dans lequel vous êtes, et tout ça. Et puis, il veut construire une maison pour l'Éternel. Donc, en fait, il veut construire l'église, le centre chrétien de Troyes comme bâtiment. Et puis, à la fin, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de construire une maison, et cette maison, au final, c'est nous, c'est l'édifice que nous formons par Jésus-Christ. Et je trouve vraiment cela encourageant. Et alors, j'aimerais terminer sur ce texte. Vous savez ce qui se passe quand David comprend en fait que la maison, elle n'est pas un morceau de cailloux ou des cailloux mis les uns sur les autres, mais qu'il comprend que la maison, eh bien, c'est l'ensemble des frères que nous formons. Eh bien, il termine par une prière. Et en fait, sa prière, elle est assez intéressante, parce qu'au début, David, il pensait que c'était lui qui allait construire la maison. Vous savez, c'est un peu comme quand on vient au début du culte, puis qu'on pense que c'est nous qui allons construire l'église en mettant dans la dîme, ou que c'est nous, lorsqu'on viendra demain matin pour aller travailler dans cette église, qu'on pense qu'on va construire cette maison. Et puis en fait, devant la réponse que Dieu donne, eh bien, tout d'un coup, David comprend, c'est pas lui qui construit la maison. Et alors sa prière, elle commence... Donc, la réponse de Dieu avait commencé par « Est-ce toi qui me construiras une maison ?» Et puis alors là, David, d'un coup, il se rend compte. Qui suis-je pour oser parler comme ça? Et alors, pardon, je vais peut-être reprendre hein, la façon... Voilà, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est la maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et tout d'un coup, David, qui pensait qu'il était moteur... Eh bien, il se rend compte qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, par exemple, quand on parle des pasteurs, on parle de serviteurs de Dieu. Eh bien oui, parce qu'en fait, le pasteur, ce n'est pas lui qui porte l'Église. Lui, c'est un vecteur, et je crois qu'on doit l'encourager dans ce rôle-là. Mais en fait, c'est le Seigneur qui construit son Église. Et quand, voilà, quand David comprend ça, eh bien, tout d'un coup, à la fin, en fait, il ne parle même plus de la maison, il ne parle même plus du temple, mais il éclate dans une louange. Et je crois que de la même façon, quand on a compris que Dieu est en train de nous construire, de nous aimer, de nous édifier, eh bien on éclate en louange, on dit merci Seigneur parce que tu as fait une belle œuvre à travers le centre chrétien de Troyes, à travers EDD des frères Bureau, à travers les frères des ADD de Sainte-Savine, à travers les frères qui se réunissent au Rocher. Et en fait là, à partir de ce moment-là, quand on comprend que c'est le Seigneur qui a construit et qui édifie son église avec les pierres imparfaites que nous formons, eh bien on éclate en louange et merci Seigneur pour la belle communauté chrétienne que vous formez. Alors, j'aimerais terminer juste par quelques applications pratiques. Tout d'abord, je crois qu'un peu comme David, quand on vient s'adresser à Dieu, souvent, en fait, on vient avec une bonne volonté, en pensant qu'on va pouvoir faire des tas de bonnes choses pour lui. Et en fait, des fois, notre prière, elle commence même un peu comme ça. Alors, ça va vous faire rire, comme je le dis, Mais hélas, on est comme ça. Ça se transforme un peu en « Merci Seigneur pour qui je suis et pour tout ce que je peux faire pour toi ». Et au bout d'un moment, quand on rentre un petit peu plus dans la prière, et puis que le Seigneur nous dit « Tiens, est-ce que tu te rappelles quand même que tu es un peu au bénéfice de ma grâce ?» Et puis tout d'un coup, notre prière, elle se transforme. « Bah Seigneur, merci. » Parce qu'en fait, c'est pas moi qui est en train de faire quelque chose, mais c'est toi qui es en train de travailler à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, on détourne nos regards de qui nous sommes pour nous tourner vers Dieu. Eh bien, on devient beau, on devient rayonnant de joie, on devient rayonnant de sa grâce. Et c'est de la même façon que David abandonne son projet pour pouvoir devenir tel que le Seigneur veut pour lui. Et puis une autre application hein, que je crois qu'on peut retenir de ce texte, eh bien, c'est que nous, lorsque nous venons ici et que nous pensons que nous allons faire des belles choses à travers un bâtiment de pierre, je reprends un peu l'exemple que je vous disais, vous venez, vous travaillez pendant des heures, et puis des fois, vous savez, on est aigri, vous savez, parce qu'on dit, ouais, et puis tel frère, il vient jamais m'aider, et puis telle personne, il agit pas comme moi je voudrais faire, et tout ça, vous savez, ça nous arrive, hein, je veux dire, on est tous humains, eh bien, en fait, le Seigneur nous dit, eh bien, en fait, si tu travailles non pas pour mettre des pierres les unes sur les autres, mais si tu travailles réellement pour le frère que tu es en train de dénigrer quand tu dis ça, et puis si réellement tu l'aimes, eh bien, tu changes ton vocabulaire, tu changes ta façon de penser, et ah, tel frère, il n'est pas venu. Mais en fait, c'est pour lui que je suis en train de faire telle chose, c'est pour lui que je suis en train de mettre des tuyaux dans les WC, c'est pour lui que je suis en train de mettre la sono, c'est pour lui que je suis en train de jouer de la guitare, c'est pour lui que je suis en train de jouer, de chanter ou quoi que ce soit. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, on commence à aimer les gens, et à partir de ce moment-là, eh bien, on travaille bien. Parce que on se disait, oh, ça va pas bien tout ça, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être rentrer chez moi, je suis fatigué. Mais à partir du moment où on aime, eh bien, on n'est plus fatigué. Vous savez, je me souviens, il y a quelques années, je travaillais avec un collègue de travail, là, c'était assez pénible, c'était manuel, c'était lourd. Il dit, je rentre chez moi le soir à 19h, je suis fatigué, j'ouvre la porte, j'ai mon enfant de 3 ans, il arrive, il saute dans mes bras, tout fier, papa, papa, papa. Et d'un coup, il n'est plus fatigué. Et jusqu'à 22h, hop, ça y est, il est reparti, et puis il fait une deuxième journée dans la soirée. Eh bien, c'est de la même façon. Regardons-nous, regardez-vous les uns les autres, retournez-vous ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, et puis regardez-vous en vous aimant. Et du coup, on n'a pas du tout le même regard. Et on se dit, mais en fait, le frère, la sœur, j'étais venu en me disant, ouais, c'est nul, il vient jamais à l'heure, ou ouais, c'est nul, il chante mal, ou quoi que ce soit. Et on le regarde, on se dit, mais on s'aime. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus fatigué, on s'en veut plus, on s'aime. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on édifie la véritable Église. Eh bien, lorsque vous êtes au centre chrétien de Troyes, eh bien, édifions-nous, aimons-nous, entourons-nous d'amour. Et j'aimerais terminer sur cette parole. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous appelles. Et tu nous appelles à un projet qui est celui d'édifier l'Église. Et on est, je crois, tous heureux et fiers le projet que tu as mis dans cette Église d'édifier le centre chrétien de Troyes. Mais Seigneur, vraiment merci parce que, eh bien, je crois qu'un jour, tu as commencé ces travaux ici. Et je crois que tu as un projet de les terminer pour ici. Je crois que tu veux vraiment permettre à cette église, dans ses bâtiments, dans ses locaux, d'être un sujet de bénédiction. Mais je crois que la bénédiction, elle ne sera pas lorsque tout sera bien mis en place, que les murs seront bien peints, que tout ça sera bien fini. Mais je crois que la bénédiction, elle est dès maintenant, par l'amour fraternel que nous pouvons manifester les uns les autres. Et Seigneur, on te demande vraiment, Seigneur, de nous donner, de nous aimer, de nous comprendre, de nous respecter. Puis peut-être que certains sont venus ici en ayant des griefs les uns contre les autres, mais Seigneur, que l'on puisse s'aimer pour pouvoir se pardonner, nous entourer, construire quelque chose de beau. Et puis Seigneur, vraiment, dans cette prière, j'aimerais vraiment que tu nous encourages pour que ces prochaines semaines, lorsqu'il y a des frères et sœurs qui viendront travailler ici, eh bien qu'ils soient heureux de travailler pour ce bâtiment, mais plus que pour ce bâtiment. Pour que tout ce que nous vivons, tout ce que nous fassions ensemble, soit là pour te bénir et te glorifier. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais par ton Église dans ce lieu, que tu puisses encore nous accompagner. Amen.